franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jean.
Bonjour.
Le jour d'après dans la presse.
Eh bien, le jour d'après, la presse nous plonge dans la géographie électorale avec pléthore de cartes passionnantes qui nous permettent de mieux analyser le scrutin. Vos quotidiens ne sont pas tous d'accord. La France est-elle coupée en deux, comme nous dit Libération? Une ligne Le Havre-Marseille pour une France Macron versus Le Pen. Coupée en trois, comme l'affirme La Croix, à la fracture entre la France qui va bien et celle des territoires désindustrialisés, s'ajouterait une troisième, celle incarnée par le vote Mélenchon, faite d'une population plus jeune, mondialiste natif, qui souffrirait de ne pas maîtriser la mondialisation. Ou alors, puzzle plus complexe encore, la France est-elle carrément coupée en quatre? C'est la thèse développée par le politologue Jérôme Jaffré dans Le Figaro, qui combine, lui, les clivages sociaux, résidentiels, culturels et générationnel pour aboutir à cette partition. La quatrième France étant celle de la classe aisée, diplômée et retraitée qui a voté Fillon. Dans les années 70, on pouvait déjà distinguer quatre France, relève-t-il. Elle votait PS, PC, RPR et UDF. Ce quatuor partisan pouvait se rapprocher pour former deux blocs, la gauche et la droite, mais ce n'est plus le cas. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a plus de regroupement évident et c'est ce qui divise profondément le pays et c'est ce qui, entre autres, constitue une gageure pour le prochain président.
Le jour d'après dans la presse, c'est aussi les premières heures d'un des finalistes du second tour, Emmanuel Macron.
Mais qu'allait-il faire dans cette galère, ou plutôt dans cette brasserie? La rotonde sera-t-il son Fouquet's, s'interroge Le Monde. La presse est peu amène ce matin sur ce moment du cœur avancé par le candidat pour justifier son dîner, aussi peu qu'elle l'est d'ailleurs sur son discours de dimanche soir. Émilie Lanez dans le point.fr fait le récit de cette soirée extravagante, dit-elle, avec petite main de la campagne et officiers de sécurité invités, certes, mais aussi personnalité people. Libération titre Emmanuel Macron, la gloriole avant l'heure. Nathalie Rollin étrit les premiers pas du candidat, un peu comme si Macron, écrit-elle, mésestimait l'importance du dernier combat qu'il attend face à Marine Le Pen. Communication présomptueuse, dit un chercheur qui a donné le sentiment qu'il avait déjà gagné. Il a gros à perdre, à enjamber le second tour, sans plus de considération pour la déception des près de 19 millions de Français dont le candidat a été recalé. Son directeur de Libération, Laurent Geoffrin, qui a choisi pour une ne rien lâcher, avec Marine Le Pen en fond, appuie le propos. Le second tour, sur le papier, s'est plié. Sur le papier seulement, encore faut-il se battre. En fêtant sa victoire 15 jours trop tôt, Emmanuel Macron est tombé dans le piège qui lui est tendu, vendre la peau de l'ours. Discours trop long, trop pâle. Un public qui crie non pas République, République, mais Brigitte, Brigitte, quand on eût préféré Marianne. Non, tout n'est pas encore joué, prévient aujourd'hui en France Le Parisien à sa une. Cécile Cornudet dans Les Échos parle elle aussi de faux départ pour le candidat, qui relève que quand Marine Le Pen n'a pas perdu une seconde en repartant sur le terrain, elle est d'ailleurs ce matin à Rungis, eh bien le candidat, lui, hier, n'a pas jugé bon d'embrayer sur la nécessité de rassembler. Car au-delà du second tour, qui n'est d'ailleurs pas le seul à vouloir enjamber, un petit coup d'œil sur la une de l'Express, il a gagné, titre en gros l'hebdo, et puis plus petit, en dessous, il y a marqué son pari. Ils sont nombreux ce matin à avoir sûrement regardé les fameuses cartes évoquées précédemment et à adresser des mises en garde aux favoris sur la suite. Cette victoire qui semble promise à Emmanuel Macron oblige celui-ci, écrit Bruno Diff dans Sud-Ouest. Elle l'oblige, car ce sera à lui, explique-t-il, de réduire les fractures françaises. Renaud Dely, dans son édito de Marianne, prévient également « le défi qu'il aura à relever est crucial, tant la France en quitte de 2017 à l'allure de ces cartons de déménagement sur lesquels on mentionne « haut, bas et en lettres capitales, fragile ».
Le jour d'après pour les perdants n'est évidemment pas plus simple, Hélène.
Comment se passe ce lundi post-claque, comme l'appelle Ludovic Vigogne dans l'Opinion, ce 42 avril, comme le titre Le Monde, pour dire le double 21 avril de la double élimination des socialistes comme des républicains. Eh bien pour le PS, on va faire court. RAS, comme souvent après un séisme, écrit Lilian Alemania dans Libération, les socialistes ne bougent pas. Bref, la grande explication est repoussée après le deuxième tour. Pour les législatives, entre ceux qui se verraient bien travailler avec le nouveau président pressenti et ceux qui veulent se situer dans son opposition à droite, le coup de crayon de Urps dans Sud-Ouest résume l'ambiance. On y voit les républicains, tous armés de haches, de couteaux, de glaives, faire la queue devant une meule pour aiguiser leurs armes. Au bureau politique hier, raconte Ludovic Vigogne, les grandes manœuvres ont commencé dans une atmosphère délétère et a commencé également à émerger la question fondamentale de la ligne politique que la droite devra choisir pour les législatives. Dans le Figaro, Marion Mourgue fait le récit de la saison en enfer de celui qui est parti hier, François Fillon. Récit de 3 mois d'incompréhension totale entre un candidat tenace qui n'a jamais rien voulu lâcher, malgré le tombereau des affaires qu'il fragilisait, et les élus, des proches même, qui faisaient sa campagne. Au QG, nous raconte-t-elle, le candidat a été secrètement rebaptisé Pignon par des élus qui ne le comprenaient plus. Pignon, comme dans le dîner de cons, référence chez les Républicains qui ne fait plus rire personne.
Aujourd'hui, début de la consultation en ligne de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon pour déterminer la consigne de vote du second tour.
Dans un article publié ce matin par la matinale du Monde, Corentin Lamy raconte comment, avant cette consultation sur laquelle Jean-Luc Mélenchon a décidé de s'appuyer, le café virtuel qui est devenu le serveur Discord insoumis s'est soudainement agité. Dès dimanche soir, 1000, puis 2000, 3000 utilisateurs en ligne se connectent à cette salle de chat. Le débat fait rage. Faut-il voter Macron ? Pour qu'on puisse se regarder dans un miroir, défend l'un. Faut-il voter blanc, s'abstenir ? Il n'a pas besoin de nous pour être élu. N'allez pas vous compromettre, dit une autre. Une position d'abstention qu'on retrouve sur d'autres réseaux sociaux, comme sur Twitter, avec le hashtag « Sans moi le 7 mai ». Et puis, sans gêne, nous raconte aussi Romain Herreros sur le site du Huffington Post, les cyber-militants du Front National tentent le tout pour le tout afin de grappiller quelques voix. Via leur plateforme Discord, la taverne des patriotes, ils diffusent eux un texte pour expliquer en quoi Emmanuel Macron incarne tout ce contre quoi les insoumis se battent depuis des années, l'Europe ou encore la finance. Sans gêne, on vous disait.
On termine par le débat entre les deux candidats.
Un débat comme d'habitude programmé le mercredi avant le second tour. Gasp, ça tombe exactement au moment de la demi-finale de la Ligue des Champions. Monaco-Juventus, c'est le mercredi 3 mai, donc changer le soir du débat, réclame carrément ce matin le Parisien. C'est un drame shakespearien, s'exclame Daniel Cohn-Bendit, fan de foot et de Macron. Bon, enfin, lui, il a trouvé la solution. Il mettra le match sur sa télé, mais sans le son, et le débat sur son ordinateur, mais sans l'image.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.